C'est marrant parce que tout à l'heure, je marchais, j'étais vers les quais de Seine, j'étais vers Bercy pour venir au studio. Et quand même il pleuvait, quand même il fait gris, etc. à Paris en ce moment, bon, c'est décembre, c'est jamais très joyeux. Bah, je me suis dit, j'adore Paris et j'embrasse, enfin, j'adhère à la ville de Paris et à tout ce qu'elle a à offrir. Et qu'importe, enfin, même, j'ai l'impression que tout le monde le fait, des gens qui s'embrassent dans la rue, enfin, très agréable, je trouve.
Écoute, moi, l'idée d'embrasser une ville ne me dérange pas. Par contre, me présenter dans une ville et voir des gens qui s'embrassent à tous les coins de rue, je suis un petit peu dérangée par cette idée. Mais c'est purement personnel. Je pense que c'est, je trouve que ça n'a pas du tout le même sens, en fait. Genre, ce que ça représente est complètement différent. Et je trouve que c'est une surexposition de l'intimité qui me dérange un peu par moment, en fait. Alors que c'est vrai que le fait d'embrasser une ville, c'est quelque chose de purement personnel et presque un peu individuel, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais.
Mais comme tout le monde embrasse la ville, est-ce que déjà la ville te rend ton baiser? Alors que quand t'embrasses quelqu'un, la plupart du temps, enfin ça dépend, mais tu peux être seul. Mais est-ce que à ce moment-là, t'as un retour du fait d'embrasser?
Mais est-ce que embrasser une ville, embrasser quelqu'un, c'est vraiment la même chose au fond?
C'est une très bonne question que tu poses là, Élise, non?
Eh bien, on va faire un podcast dessus.
C'est parti.
Bienvenue dans Radiopium, votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM.
L'homme refuse le monde tel qu'il est, et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
Cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre.
Vous écoutez Radiopium. Et on s'est dit qu'en cette période de fête et avec toutes les embrassades que nous allions probablement expérimenter, partager avec nos proches et peut-être même subir à certains moments, eh bien c'était assez intéressant de se pencher sur l'idée d'embrasser en elle-même et qu'est-ce que c'est qu'embrasser. Et du coup, avec Maëlle, Anthony, Élise et Marianne, moi-même, on va disserter sur ce sujet et puis essayer de comprendre ce qu'il en découle. Et voilà, c'est parti. Embarquez-vous avec nous dans cette aventure. Et alors, c'est quoi embrasser? Et puis, pourquoi les gens s'embrassent? Des interrogations qui s'apparentent à première vue à celles d'un enfant qu'un enfant peut soulever lorsqu'à la fois surpris et dégoûté, il voit ses parents s'embrasser sous ses yeux pour la première fois. Figurez-vous qu'on a décidé que ces questions avaient une portée philosophique parfois sous-estimée. En fait, on s'est dit qu'on se les était tous posées au moins une fois, mais qu'à force de voir des gens s'embrasser à longueur de journée, dans la rue, les films et même les pubs affichés dans le métro, on s'y était habitué, qu'on avait arrêté de se questionner. Pourtant, embrasser, c'est un acte fort et souvent intimidant. Alors on s'est dit qu'on allait décortiquer le concept pour mieux le comprendre et l'appréhender. Et du coup, je vais commencer par me poser une question précise. À quoi cela nous sert-il d'embrasser les autres et le monde qui nous entoure? C'est vrai, quelle est l'utilité du fait d'embrasser? Alors on va prendre le concept à sa racine, en se penchant sur les multiples définitions à notre disposition. On constate d'abord qu'embrasser, c'est avant tout prendre quelqu'un ou quelque chose dans ses bras, souvent en le serrant contre soi. Eh bien oui, embrasser, du latin populaire, imbricare, composé du préfixe in, signifiant « dent » et de « brachium » qui veut dire « bras ». Embrasser, ce serait donc d'abord étreindre, et étreindre, ce serait accueillir entre ses bras, faire une place à quelqu'un ou quelque chose contre nous, s'y attacher physiquement comme pour y adhérer. Alors bien sûr, la deuxième définition du dictionnaire se réfère généralement à l'idée qu'embrasser, c'est donner des baisers à quelqu'un pour lui témoigner une certaine affection ou simplement le saluer. Embrasser, ce serait donc, dans ces deux cas, toucher, établir un lien, une sorte de connexion avec l'autre. Et finalement, ces définitions nous montrent assez bien qu'embrasser, c'est d'abord un acte qui consiste à entrer en contact avec quelque chose ou quelqu'un. Mais on pourrait aussi élargir cette définition en s'intéressant à sa portée plus figurative. Et par là, j'entends l'idée que l'on puisse embrasser des idéaux, une culture ou un mode de vie, par exemple. Dès lors, que recherchons-nous dans cet acte d'attachement à ce qui nous est extérieur? En bref, qu'est-ce que l'acte d'embrasser et le choix des choses qu'on embrasse peuvent dévoiler de nous et de nos intentions? On va d'abord s'intéresser à l'idée qu'embrasser, c'est établir un lien, une connexion avec l'extérieur. En effet, lorsqu'on embrasse dans le sens littéral et physique du terme, on entre en contact avec quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à nous. Dans tous les cas, on crée un lien entre nous et cette autre chose grâce au toucher. Le moment de l'embrassade est celui d'une rencontre physique qui nous rappelle, en quelque sorte, qu'il existe quelque chose en dehors de nous-mêmes et de notre propre corps. Et donc, on va se pencher particulièrement sur la conception de Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception, qui s'intéresse à la manière dont notre expérience du monde est façonnée par le fait que nous possédons un corps. Le fait de posséder un corps, selon Merleau-Ponty, nous donne le moyen de nous engager dans le monde et de le comprendre. Il pense que notre corps nous permet, par les cinq sens notamment, de connaître le monde qui nous entoure, mais aussi d'interagir avec autrui. Il est l'interface qui permet d'établir une relation entre deux personnes. De plus, il est aussi ce qui nous permet d'exprimer nos intentions et émotions. Et donc on voit en fait qu'au sein de la philosophie de Merleau-Ponty, la corporalité est centrale. Et elle a une place aussi particulièrement centrale dans l'expérience humaine. Le fait d'embrasser quelqu'un, du coup, que ce soit par des baisers ou par un simple câlin, une étreinte, pourrait apparaître comme un acte du corps nous permettant d'interagir avec autrui et d'associer notre expérience corporelle à la sienne. Et cela reflèterait également notre intention d'apprendre à connaître cette personne en établissant un lien avec elle. Embrasser nous permettrait donc de découvrir et de mieux comprendre l'autre. Par ailleurs, le fait d'embrasser traduirait la manière que l'on a de s'ouvrir au monde extérieur, à l'autre, en ne se contentant pas de notre propre corps et en allant vers quelque chose qui lui est étranger. Cela nous permettrait de prendre conscience de notre place dans le monde et au sein de la communauté humaine. Et donc en fait là j'ai envie de me pencher sur un exemple particulier que j'ai trouvé en regardant un documentaire Arte sur le toucher qui s'appelle « Le toucher, un acte vital ». Et en fait dans ce documentaire on voit à quel point il est nécessaire de mettre l'enfant contre une peau très vite après sa naissance afin qu'il prenne conscience en fait physiquement du fait qu'il est au sein du monde extérieur et qu'il n'est pas seul. Et donc on pourrait dire que ici le fait d'embrasser, donc de faire un câlin, particulièrement ici, ça permettrait à l'enfant de prendre conscience de son existence en fait. Et ça apparaîtrait même comme le contact physique le plus primaire qui existe. Et ça serait finalement celui qu'on expérimente en premier. Donc on pourrait dire qu'embrasser ici apparaît comme un acte nécessaire et vital en fait. Embrasser, c'est vraiment en fait un acte qui semble nécessaire à la vie humaine parce que cela nous permet de rencontrer l'autre et le monde extérieur en entrant en contact physiquement avec ceux-ci et en tissant un lien, une connexion physique.
Est-ce que pourtant on pourrait dire que embrasser, ça se résume à établir un contact physique entre deux formes, deux identités, deux entités plutôt?
Alors en fait, non, justement, le fait d'embrasser ne se réduit pas à un contact physique et je pense que c'est intéressant de se pencher sur la dimension plus figurative du terme. En fait, on pourrait voir le fait d'embrasser aussi comme une manière d'adhérer à quelque chose et notamment d'adhérer à une idée. Et en fait, dès lors, on peut faire référence à l'idée commune qu'embrasser des idées ou une culture, bien en fait, c'est vraiment se les approprier, s'y intéresser pour, oui, en fait, les intégrer dans notre manière de penser. Et donc, dès lors, on va se pencher maintenant, du coup, sur une conception particulière qui est celle du philosophe Amartya Sen, qui, dans son ouvrage Identity and Violence, The Illusion of Destiny, souligne l'intérêt et la nécessité d'embrasser diverses cultures. Il pense en fait que les individus sont constitués d'une diversité d'affiliations culturelles et qu'ils ne se résument pas seulement à leur religion ou leur ethnie. Et donc en fait, il insiste sur l'idée qu'il est important et nécessaire de s'ouvrir aux cultures qui nous sont étrangères. Selon lui, en embrassant différentes cultures, on reconnaît la pluralité des identités humaines et en fait, on s'enrichit de nouvelles idées et coutumes. Et donc, non seulement quand on embrasse une nouvelle culture, on épouse certains idéaux propres à la culture que l'on embrasse, mais on adhère aussi à ses pratiques et parfois même on fusionne en quelque sorte avec celles-ci. En fait, on les incorpore à notre quotidien et on pense même à travers elles en quelque sorte. Et donc ici, on pourrait penser que embrasser, ce serait avant tout reconnaître l'existence de cultures ou d'idées qui ne sont pas les nôtres, qui sont extérieures à nous, et décider d'y adhérer. L'acte d'embrasser apparaît donc ici comme un moyen d'évoluer, de développer ses idées et d'élargir ses conceptions du monde pour mieux le comprendre. Donc enfin, on pourrait dire que l'acte d'embrasser est celui d'une adhésion à ce qui nous est extérieur, tant à quelqu'un qu'à quelque chose, mais aussi à des idées et des coutumes. Et il apparaît ainsi comme l'illustration de notre envie et de notre besoin d'ouverture et de découverte et de compréhension du monde.
Bah alors c'est extrêmement intéressant, mais c'est vrai que moi je conçois aussi le fait d'embrasser comme quelque chose qui permet, comme un moyen justement de s'extraire du monde, justement, et de s'extraire même de la réalité. Parce qu'il me semble que quand on embrasse vraiment, donc là je parle au sens physique du terme, quand on embrasse quelque chose ou quelqu'un, quand on embrasse avec l'intention qui va avec, avec le sentiment, il y a comme une sorte d'engagement total, une instantanéité, donc en fait une sorte d'actualisation vraiment du présent, comme si on se mettait en phase totale avec son corps, son esprit et ceux de l'autre. Et pour moi, il y a comme une sorte d'ivresse qui se dégage d'un baiser, au sens où ça crée comme un espace-temps nouveau, comme un entre-deux, un peu comme une trappe en fait dans la réalité au contraire. Et c'est en ça que moi je conçois un peu comme un acte presque mystique, un peu sacré. Et donc oui, c'est donc pour toutes ces raisons qu'il me semble qu'embrasser quelqu'un ou quelque chose, ça convoque justement cet ordre du sacré et même du sacré spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de références au baiser, au fait d'embrasser dans beaucoup d'œuvres sacrées. Et c'est le cas du Cantique des Cantiques, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un livre de la Bible qui est une suite de chants d'amour alternés entre un homme et une femme, donc c'est un grand poème d'amour. Et il y a donc une attention poétique extrêmement importante qui est portée justement à cette exaltation des sentiments, mais aussi en fait à l'amour corporel proprement. Et donc il y a cette conception du baiser comme une manifestation à la fois d'un don et d'un accueil qui serait donc simultané pour chacun des deux amants. Et c'est en ça, je pense, qu'on peut justement concevoir le fait d'embrasser comme une communion totale, une communion presque au sens religieux du terme, quoi. Une communion totale, une fusion avec l'autre. Parce qu'en fait, donc, on embrasse ce qui enveloppe le corps de l'autre, à la fois corporellement et spirituellement. C'est un acte qui est assez particulier pour moi, en fait, à travers lequel l'esprit embrasse la chair réciproquement. Donc cet acte, c'est vrai que dans les représentations symboliques, culturelles, religieuses, il est souvent sacralisé. Même dans la littérature, par exemple donc dans la Recherche du temps perdu, le narrateur de Proust, quand il est tout jeune, il a conscience en fait que le baiser attendu de sa mère le soir, donc qui est comme un rituel avant de se coucher, que ce baiser est comme une communion. En fait, je cite même le texte, il le définit comme une hostie, donc comme un rituel d'ordre religieux. Donc là, on ne parle pas du baiser amoureux, on parle du baiser affectueux, mais c'est un peu le même principe. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que on a vu aussi à travers les époques l'ordre religieux justement condamner en fait le baiser au sens corporel et donc plus du coup érotique aussi du terme comme un acte indécent. Et ça, c'est un peu le paradoxe. Il y a une référence très très forte à ça dans le film Cinema Paradiso, qui est un film italien du XXe siècle. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et en fait, donc c'est un film qui met en scène donc l'action se déroule dans un petit village italien donc du milieu du XXe siècle, où donc il y a un petit cinéma de village qui a donc son projectionniste. Et en fait, il y a des scènes assez fortes où on voit que le curé du village a un droit de censure sur les films qui vont être projetés. Donc en fait, il y a comme en amont des projections, une sorte de rituel où le projectionniste et le curé se donnent rendez-vous et ils coupent en amont donc toutes les scènes de baiser dans les films. Et donc c'est le film, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est ami avec le projectionniste, et donc qui à la fin du film, sans spoiler en soi, on voit que le projectionniste en fait qui est décédé lui a laissé en héritage toutes les scènes de baiser censurées à l'époque qu'il avait quand même récupérées et qu'il a mis bout à bout. Et donc ça offre quand même un final au film qui est très très beau, qui est assez époustouflant. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette référence donc, au baiser, sa dimension un peu sacrée, symbolique, etc. Voilà. Et c'est assez intéressant parce que je pense que c'est par la question du cinéma qu'on peut vachement comprendre une autre dimension importante, justement, qui est une dimension culturelle du fait d'embrasser. Parce que c'est avec l'apparition du baiser dans le cinéma hollywoodien, donc depuis le début du XXe siècle, que la pratique, en fait on ne s'en rend pas forcément compte, mais que la pratique justement du baiser bouche à bouche s'est en partie propagée dans le monde. En tout cas, donc, oui, donc ce qui est du baiser amoureux. Et ça, je trouve ça un peu badant parce qu'on peut le concevoir vraiment comme un autre produit de la mondialisation, un peu comme le Coca ou le Père Noël en fait, qui nous vient justement des États-Unis. Voilà. Mais du coup, bon, tout ça pour dire que c'est assez important aussi de se rendre compte que le fait d'embrasser quelqu'un comme on le conçoit nous naturellement aujourd'hui, c'est aussi un phénomène qui est très social et purement culturel, en fait, parce que les significations et les pratiques qui sont liées au fait d'embrasser n'ont pas toujours été les mêmes. Et du coup, Merleau-Ponty, aussi dans la phénoménologie de la perception, dit quelque chose de très intéressant à ce propos. Il dit, donc, je cite, « Il n'est pas plus naturel ou pas moins conventionnel de crier dans la colère ou d'embrasser dans l'amour que d'appeler table une table. Les sentiments et les conduites passionnelles sont inventés comme les mots. » Et ici, donc, en fait, on rompt complètement avec l'idée qu'on pourrait... qu'il pourrait y avoir du caractère spontané, inné et donc naturel dans nos conduites affectives. Mais c'est, en fait, c'est vrai que selon les milieux sociaux et les civilisations, embrasser n'a pas nécessairement le sens symbolique qu'on lui donne aujourd'hui. Et un exemple assez, disons, évocateur de ça, c'est qu'au Moyen-Âge, en fait, on le sait pas forcément, mais le baiser sur la bouche, il n'était pas forcément réservé aux relations érotiques ou amoureuses ou affectueuses. Mais en fait, il venait aussi sceller les serments d'allégeance prêtés par un vassal à son seigneur. Et il apparaissait aussi comme une manifestation, parmi d'autres, de l'amitié entre deux chevaliers, par exemple.
Et maintenant, c'est l'heure d'une petite pause musicale au cours de laquelle nous allons écouter Kiss Me de Sixpence None the Richer. Nous venons d'écouter Kiss Me de Sixpence None the Richer.
C'est marrant ce que tu dis, Alice, sur le fait que embrasser, ça avait conduit à une relation de quelque part de domination ou du moins de hiérarchie, admettons entre le vassal et son seigneur. Dans la mesure où on pourrait croire que embrasser, ou du moins par le baiser, il y avait quelque chose comme un rapport de possession entre l'un et l'autre partie. Embrasser pourrait être considéré comme synonyme d'une possession. Quand on embrasse un objet, on le fait sien. L'objet devient celui de notre baiser. À partir de là, on remarque que le baiser consiste moins en une tentative de s'unir à l'autre que de le posséder, c'est-à-dire de former une seule entité à partir de deux premières qui sont distinctes, en ramenant la singularité de l'autre à la sienne propre. J'ai décidé de partir d'un exemple, qui est un exemple de Zola, pour illustrer cela et le fait que le baiser est véritablement synonyme d'appropriation. dans Thérèse Raquin, au chapitre 9, alors pour recontextualiser un petit peu, c'est lorsque Laurent et Thérèse, Laurent étant l'amant de Thérèse, prévoient le meurtre de Camille. Ils discutent dans la chambre, après justement un rapport sexuel. Et donc Laurent demande à Thérèse, « Tu es à moi, n'est-ce pas » continua-t-il, « Tu jures de te livrer entière, à toute heure, quand je voudrai. » Thérèse lui répond, « Oui, cria la jeune femme, je t'appartiens, fais de moi ce qu'il te plaira. » On remarque qu'il y a vraiment un rapport donc, d'appartenance, presque un rapport de violence dans l'étreinte. En ce que non seulement le baiser se fait appropriation, mais encore aliénation, par une violence faite à l'embrasser. L'embrassade serait à envisager donc comme ce rapport de force susceptible d'entraîner une négation de la liberté de l'autre, une forme de soumission en quelque sorte. On pourrait ramener ça à l'analyse que fait Sartre, alors aussi bien dans les Cahiers pour une morale que dans L'être et le néant, des relations amoureuses, tout simplement entre deux parties, et plus particulièrement de ces relations à l'aune de la notion de force. En ce que Sartre identifie une dérivation étymologique de la violence à partir de cette force-là. Et la violence, ce serait quoi ? Ce serait la destruction d'une nature uniforme par échec de la force. À partir de là, on remarque que cet échec de la force, à quoi est-ce qu'il est dû ? Il est dû au fait que... Il y a un rapport de la conscience à la facticité. Alors la facticité, c'est tout simplement le fait d'être là, en acte. Et donc cette liberté, elle rend la fin qu'elle projette irréalisable. Il y a une substitution, disons, de l'un à l'autre, en ce que la violence apparaît comme cette affirmation inconditionnée de la liberté dans une forme de refus par la destruction. Je refuse à l'autre sa réalité, pour la subordonner à la mienne, ou du moins à celle que je veux lui imposer par le baiser et par la relation. Il y a différents termes, d'ailleurs, qui peuvent être embrassés. On peut embrasser, admettons, sa place, donc son situs, là où on est dans l'espace et dans le temps. On peut embrasser son passé, admettons, donc l'incorporer à sa propre histoire. Mais encore une fois, on est dans de l'ordre de la possession, et il y a un risque à cela, c'est celui d'une dissolution. L'autre résiste, me réduit et me ramène à être violent nécessairement, ou bien il me cède. Mais dans tous les cas, Sartre affirme que, je cite, « la violence a besoin en permanence de la liberté qu'elle nie, parce qu'elle en attend tout de même la reconnaissance ». On arrive dans une forme de dialectique, où le baiser, appréhendé sur le mode du don, revient à imposer ses fins à l'autre, à transcender sa liberté en lui imposant des fins qui ne sont pas les siennes. Et en tant que donner, c'est à servir, tout baiser serait une forme de défi à l'autre. On cherche à l'enchaîner en quelque sorte. À partir de là, on peut se demander, mais est-ce qu'on ne pourrait pas refuser cette forme d'étreinte, d'étreinte qui devient torture ? Et ce refus-là, ce sera celui d'un personnage de Ibsen dans La Maison de Poupée, qui est d'ailleurs très intéressant parce que c'est quelque part les prémices d'un féminisme, bon ça remonte quand même, mais enfin, à l'acte 3, Nora, qui est une femme déçue parce que son mari, face au chantage en fait, la délaisse, pour faire court, je ne spoil pas, de même que Marianne, répond à son mari, écoute Thorvald, donc le mari étant Thorvald, quand une femme quitte le domicile conjugal, comme je le fais maintenant, il paraît que la loi dégage le mari de toute obligation envers elle. Je te dégage en tout cas de toute obligation, ne t'en sens plus lié à rien, d'aucune façon, tout comme moi. La liberté entière de part et d'autre, tiens, je te rends mon alliance, rends-moi la mienne. Donc elle ne croit plus au miracle, à celui d'une union possible. On remarque qu'il y a vraiment une forme de désengagement et de désagrégation des deux parties qui pourtant formaient le baiser. Enfin, j'aimerais bien me demander, mais n'y aurait-il pas des attitudes qui ne se présentent pas directement sous l'aune de cette tendance appropriative ? Est-ce que le baiser ne pourrait-il pas être envisagé selon une modalité qui relèverait davantage de la synthèse plutôt que d'un rapport de domination factice ? Alors Sartre énumère par exemple le jeu, le sport, la générosité. Et c'est toujours dans les Cahiers pour une morale où il pense l'artiste selon deux niveaux. D'une part, l'artiste qui aime la pratique pour elle-même. Et donc, il embrasse véritablement l'art, indépendamment de toute considération économique, sociale, à la différence d'un artiste qui, lui, est complètement enfermé dans l'aliénation du baiser. Et en fait, ce baiser qui est corrompu par un ensemble d'autres éléments. Par exemple, Pierre de Guiscard, dans La Rose de Sable de Monterland, qui, en fin de compte, ne peint que pour arrondir les fins de mois et se fiche complètement de ses toiles. Mais en fin de compte, est-il vraiment possible d'incorporer les idées autour desquelles s'articule une cause, au point de les faire siennes, au point de les embrasser et de Oui, de ne faire qu'un. Est-ce qu'il n'y aurait pas toujours une forme de hiatus qui demeurerait? À partir de là, le baiser serait vide et on ne ferait qu'embrasser des marbres. C'est notamment le cas lorsque on cherche à adhérer à des idées vis-à-vis desquelles pourtant on sent une dissymétrie ou du moins on n'arrive pas à s'y identifier clairement. De même qu'en amour, en réalité, où on cherche à faire sien l'autre qui pourtant le refuse. Alors c'est le cas d'un autre personnage qui s'appelle Lucien Fleurier dans L'enfance d'un chef de Sartre, où il échoue aussi bien à faire sienne son amourette que la cause. Alors la cause, c'est à l'extrême droite et les camelots du roi. C'est-à-dire que, par exemple, il parle donc de l'étreinte, de la possession. Il dit c'était nous deux en parlant à donc comment dire, sa petite amie de l'époque, oui, jusqu'à la possession. Il l'épouserait, elle sera sa femme, la plus tendre de ses droits. Sa femme étant soulignée, donc il y a vraiment ce rapport de propriété. Et de même, lorsqu'on lui propose d'aller avec d'autres séminaristes, il dit je viens, dit-il, mais ça ne m'engage pas, je veux voir et réfléchir. Ça ne l'engage pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours une distanciation vis-à-vis de cela. Et lorsqu'il sort d'un café, il est toujours incertain de savoir, bon, c'est-à-dire qu'il a vu ses amis aller frapper. Dans l'antisémitisme, puis ensuite remettre leur cravate tranquillement dans un bar. Lui, il ressort, il croise son reflet, mais il ne se reconnaît pas. Et il se dit, je cite, « Je vais laisser pousser ma moustache », décida-t-il. Donc c'est vraiment la seule façon qu'il a d'embrasser cette cause. En fin de compte, c'est quand même vide.
Mais justement, Anthony, par rapport à ce que tu dis sur les limites de l'adhésion intellectuelle, j'aimerais m'y pencher un peu plus précisément et expliquer ce qui fait qu'on ne peut pas adhérer à une idée. Comme tu le dis là, donc là en l'occurrence ce personnage va compenser en se laissant pousser une moustache, mais j'aimerais revenir au stade antérieur, vraiment, où on s'intéresse au moment où il n'arrive pas à adhérer finalement. Donc dans la fin de ce podcast, j'aimerais procéder en deux temps, d'abord parler de la limite d'embrasser une idée, puis de la limite d'embrasser une personne. Il me semble que le point de jonction entre ces deux limites et les autres finalement qui en constituent les sous-ensembles, c'est l'altérité. L'altérité est la raison pour laquelle on ne peut pas embrasser complètement que ce soit une idée ou une personne. Il semble que la première limite de l'adhésion intellectuelle soit d'ordre cognitif. En effet, nous sommes des êtres rationnels et il paraît donc que l'incompréhension constitue une limite fondamentale à l'adhésion intellectuelle et idéologique. Puisque le processus d'adhésion à une idée repose justement sur la rationalité. Pour comprendre une idée, il faut que l'ensemble de ses parties apparaissent comme cohérentes au sujet que nous sommes. Un être rationnel ne peut embrasser une idée que dans la mesure où il l'envisage comme un système homogène. Il doit y avoir une logique entre les postulats et les conséquences que présuppose cette idée. Un sujet ne peut pas complètement embrasser une idée s'il ne la comprend pas, donc. Et justement, pourtant, on a exemple de personnes qui semblent très investies dans des idées qui paraissent absolument dingues sans les comprendre. C'est le propre de la propagande et de l'endoctrinement. Et alors on se dit, bah, ils ont l'air quand même d'embrasser cette idée même s'ils ne la comprennent pas. Et justement, la puissance de l'endoctrinement et de la propagande, c'est de nous convertir en êtres irrationnels, alors que nous sommes à la base des êtres rationnels qui doivent comprendre pour adhérer. Là, justement, la puissance de l'endoctrinement est de nous convertir, et alors le processus d'adhésion ne repose pas sur des critères de jugement rationnel, mais sur la puissance de la persuasion, de l'émotion et des passions en général. Ce sont les passions qui vont nous convertir en êtres irrationnels et fanatiques, si on le puit dire. Et cette émotion, enfin les émotions qui sont sollicitées par la propagande, généralement dans les systèmes totalitaires, ça va être la crainte ou le désir d'accumuler des richesses pour s'élever dans la hiérarchie sociale. Par ailleurs, il y a une deuxième limite que je nommerais limite axiologique. Donc axiologique, c'est un adjectif pour désigner la morale et les valeurs en général. Il semblerait, concernant cette limite axiologique, qu'il y ait quand même une dimension affective dans l'engagement intellectuel et idéologique. Mais cette dimension affective, les valeurs que regroupe cette idée ou cette idéologie doivent coïncider avec la compréhension que j'ai de l'idée. En gros, l'inadéquation entre l'idée et mes propres valeurs morales et politiques constitue une limite à mon adhésion idéologique ou intellectuelle. Donc l'écart entre les valeurs que j'ai incorporées et une idée peut non seulement entraîner un désaccord logique et intellectuel, mais aussi un malaise vraiment physique et affectif. Par exemple, je peux ressentir une nausée à l'écoute de discours extrêmes, limites et xénophobes. C'est un exemple. Donc, l'incompréhension intellectuelle et morale caractérise l'altérité dans l'adhésion à une idée, et elle implique une distance. Donc là, on a vu les limites de l'adhésion intellectuelle, mais il faudrait aussi dire que l'adhésion elle-même peut paraître limitante, en quelque sorte. Puisque si je prends parti, si j'adopte une idée, alors ça m'occulte d'autres parties de la réalité. Dans la présentation de la revue des temps modernes, Sartre, par exemple, il critique l'écrivain bourgeois qui n'écrit qu'à partir de son adhésion aux grandes théories littéraires de l'avant-guerre au lieu d'élaborer une conception synthétique de l'être humain. C'est-à-dire qu'ici, embrasser une idée ou prendre parti pour une théorie, c'est aussi se priver de toutes les découvrir et de toutes les envisager. Pour sa part, Sartre, lui, il entreprend de s'intéresser à tous les débats qui marquent son époque dans sa revue Les Temps modernes, mais d'un point de vue philosophique et non politique. Puisque son objectif, c'est de dégager les valeurs éternelles de l'être humain. C'est un grand programme, mais la philosophie, c'est peut-être finalement la seule idée qu'on peut embrasser sans renoncer à tout connaître, en fait. Parce que c'est la science du réel, c'est la réflexion sur le réel en général. Donc l'altérité demeure néanmoins, et si l'ambition est de tout connaître et de tout comprendre, il semblerait qu'elle ne soit rien de plus que la visée d'un idéal. Certes, c'est un idéal qu'il faut poursuivre, mais on ne connaîtra probablement jamais tout. Toujours est-il que l'adhésion intellectuelle présente des limites en même temps qu'elle en constitue une. Sur ce point, nous avons terminé. Maintenant, je vais parler de la limite d'embrasser une personne qui peut paraître assez étrange, puisque quand on embrasse quelqu'un, on apparaît en fusion. Mais contrairement à l'engagement intellectuel et moral, un écart irréductible demeure dans l'étreinte. Lévinas définit l'éthique comme un respect de l'altérité. Et l'autre ne peut jamais être réduit au même, malgré les efforts que ce dernier investit en vertu de cette fin, de cette fusion et de cette communion entre deux êtres. La première limite est une limite éthique. Et là, on va parler du problème du désir désiré. En fait, il est impossible pour le sujet de susciter le désir d'autrui. Il doit se plier au désir d'autrui, si lui-même en ressent le désir, évidemment. Le désir que le sujet éprouve pour autrui n'est justifié que dans la mesure où celui-ci est réciproque. Quand un baiser est consenti, mais qu'autrui n'éprouve pas de désir, la communion n'a pas lieu. Quand le baiser n'est pas consenti, c'est tout simplement une agression sexuelle. Sartre étudie le problème du désir désiré, qui est la condition de l'amour, et donc de l'embrasser authentique. Il ne peut pas y avoir d'embrasser authentique sans désir désiré, en gros. La deuxième limite, je dirais que c'est la limite physique, dont Sartre parle également dans L'être et le néant. La communion physique espérée dans l'embrasser est en réalité une illusion qui retombe au terme du plaisir. Le plaisir, c'est la mort du désir, qui est précisément le support de cette illusion. Après s'être embrassé, le sujet éprouve à nouveau sa facticité, dont parlait tout à l'heure Anthony. La facticité, c'est les limites physiques de l'être, dans le monde. Sa corporéité. En fait, il y a une impossibilité de fusionner. Une impossibilité, on dirait, ontologique. Donc, parce qu'on est des êtres humains qui ont un corps, on ne peut pas fusionner. C'est une illusion. Je vais citer un passage de L'être et le néant. Pessimisme assurément, puisque la communication des consciences et des corps qui est visée dans le désir semble vouée à une aporie fondamentale que vient corroborer la leçon intime de l'existence engagée dans la double épreuve du temps et de la liberté. Ça paraît assez nébuleux comme ça, mais ça vient juste confirmer ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas communier. Donc ça, c'était la limite physique. Et enfin, je vais parler d'une limite métaphysique, sinon c'est pas drôle et c'est pas de la philo, je rigole. Mais en gros, la limite métaphysique, c'est ce qui va plus... venir parler de la communion des esprits, en fait. Parce qu'on a aussi parlé de la communion des esprits dans le baiser, mais ça aussi, en fait, c'est impossible. L'espérance d'une communion n'est pas seulement portée par le désir sexuel, mais aussi par le sentiment amoureux. Et si l'amour a déjà éprouvé l'impossibilité d'une communion physique, il va néanmoins pas cesser de viser la fusion avec autrui. La fusion métaphysique, divine, mystique, on peut employer tous les mots possibles pour ça. Et la fusion visée, elle est alors d'ordre immatériel. Embrasser quelqu'un, c'est idéalement connaître totalement une personne, pouvoir la comprendre dans tous ses aspects et se l'approprier, comme en parlait Anthony. Sauf que parce que le propre d'autrui est d'être autre, je ne peux pas l'appréhender complètement. Dans Totalité et Infini, Lévinas décrit l'autre comme un être absolument inconnaissable, inanticipable. C'est assez cynique, je suis bien d'accord. Mais en tout cas, c'est la limite extrême du baiser. Et c'est le cas parce que l'autre est pour le même ce que l'infini est à la connaissance. L'autre est aussi grand pour nous que l'idée de la connaissance l'est. L'idée de l'infini, pardon, l'est pour la connaissance. Et l'idée de l'infini, comme notre entendement ne peut pas l'embrasser totalement, l'autre, c'est la même chose par rapport à nous. L'autre est l'infini. L'autre dépasse donc mes facultés de connaître de la même façon que l'idée de l'infini. Et en fait, on se rend compte, malheureusement, que l'embrasser physique est limité par cette altérité ultime que décrit Lévinas. Je souhaite quand même nuancer le propos parce que Lévinas est un penseur moral extrêmement radical. Il ne s'agit pas non plus de perdre tout espoir en l'amour et en l'embrasser, évidemment. Mais toujours est-il qu'il faudra toujours garder en tête cette idée-là de l'altérité.
En vrai, c'est terrible parce que en vrai de vrai, je saurais même pas te dire quel est mon meilleur baiser. Enfin, si, j'ai plein d'expériences de baiser, machin, mais je saurais pas te dire lequel m'a le plus marqué.
Peut-être le premier.
Oui, ouais, mais pas dans le bon sens du terme parce que c'était un baiser un peu baveux. Non, mais clairement, c'est le style, enfin, le truc où tu sais pas comment faire. Et du coup, c'est plus mécanique qu'autre chose, mais du coup, mécanique sans savoir comment faire, bah, du coup, c'est vraiment. Voilà. C'est...
Bah, tu répètes une scène, quoi. Bah, pareil, comme je disais tout à l'heure. Premier baiser, vacances, je dis au revoir, genre, j'avais 4 ans, je dis au revoir à mon voisin de bungalow, je sais pas trop comment dire, il avait 4 ans aussi, il m'avait donné son dinosaure, etc. Bref, et comment dire au revoir, petit bisou sur la bouche, enfin, on refait comme les grands, quoi.
Ah, mais ça, c'est très mignon, très très mignon.
Ouais, en fait, il y a vraiment une part de mimétisme, quoi. Genre quand t'es, quand t'es ado ou que t'es enfant, que tu t'embrasses pour la première fois quelqu'un, t'essaies juste de reproduire un truc que les grands font, mais tu sais même pas vraiment quoi ça sert, quel sens ça a.
C'est juste symbolique.
Oui. Eh bien sûr, ouais. T'as pas, ouais. Tu t'en passes pas encore avec le désir qui va derrière. C'est purement, justement, juste symbolique. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, pendant, genre, je pense, après mon premier baiser, pendant peut-être 3-4 ans, je pensais que j'aimais pas embrasser, en fait. Parce que, genre, j'étais là en mode, pourquoi j'ai fait ça? Enfin, genre, c'était avec un petit copain de vacances et tout. Et je m'étais dit, mais, oui, ça avait pas été une expérience super agréable, c'était pareil que toi, genre, un peu baveux et tout. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est nul. Enfin, c'est pas du tout agréable comme expérience. Ça a pas de sens, genre.
Mais en vrai, oui, ça s'apprend. On a l'impression que c'est un truc super inné et que forcément, parce qu'on a du désir pour quelqu'un, le baiser va être vraiment, vraiment, vraiment génial, etc. Alors qu'en fait, parfois, c'est horrible aussi parce que t'as envie d'embrasser quelqu'un, même aujourd'hui, hein, je veux dire. Et en fait, tu te rends compte que ça matche pas physiquement. Il y a un truc trop bizarre que la personne, entre guillemets, t'as l'impression qu'elle s'est pas embrassée ou même. Ouais. Enfin, en fait, c'est juste ça matche pas. Et du coup, c'est super bizarre.
Et toi, Maëlle, t'en penses quoi? Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à embrasser, quoi? Est-ce que t'as une petite anecdote à nous partager?
Non.
Maël est très privé. Ouais. Maël, mais ce qui est compréhensible. C'est légitime.
C'est pas... non, parce que le baiser est personnel.
Après, peut-être que ta première expérience de baiser, d'embrassade, c'était, je sais pas, moi, en regardant un tableau, en écoutant un, film.
C'était en musique, boom, c'était une boom en fait. Ah. Genre, en fait, c'était trop gênant parce qu'il y a un mec trop beau dans la colo qui est venu me demander de danser. Et juste avant, en fait, il avait demandé à ma pote, elle avait dit non. Donc j'étais clairement le plan B. Et après, on avait dansé sur Someone Like You et il m'a galoché de ouf. Et après, juste pendant une semaine, on était en couple et il me disait je t'aime et tout. Alors que, enfin, on avait 12 ans, tu vois. Et tout, ouais, et voilà, trop mimétisme. Bizarre. Et en fait, on est parti de la colo. Donc on était dans le train et là il a vu son ex dans le train et il m'a plus qu'à là.
Ah ouais. Ouais.
Et comme quoi le baiser peut être destructeur, le fait d'embrasser.
Donc voilà.
Vraiment c'est...
Ne sous-estimez pas Adèle, c'est tout ce que j'ai à dire.
Pour conclure...
Embrasser c'est cool.
Embrasser c'est cool quand c'est consenti.
Ouais mais c'est vrai qu'à la base c'est quand même une notion, le fait d'embrasser c'est quand même assez positif. Dans peu importe le sens, que ce soit culturel.
Et au-delà du baiser amoureux, c'est important de montrer son affection aux personnes qu'on aime.
Bah, important, après, ça dépend de chacun. Il y a différentes manières de montrer une affection.
Oui, c'est vrai. Les langages de l'amour, les cinq langages.
Mmh. D'accord. Mais moi, je parle plus. J'allais plus parler des embrassades, genre les parents, les grands-parents, les proches en général, quoi. Mmh. Genre.
Mais tu sais que ça crée. Ça te crée on appelle ça l'ocytocine, tu sais, l'hormone du bonheur.
Ah ouais.
Et le fait d'étreindre quelqu'un, de lui faire un câlin, ça te libère des hormones d'ocytocine. Et il y a des études qui disent que c'est sain, entre guillemets, et qu'il faut
faire des
embrasser des gens au moins une fois par jour.
Et embrasser, c'est-à-dire avec les bras, quoi.
Oui,
embrasser.
Ou autre. Mais bon, voilà, on n'est pas tous...
Faites des câlins à vos proches. C'est bénéfique. Ça vous est bénéfique et c'est bénéfique aux autres.
On
c'est cool.
De fin d'année, ça rend tout le monde content.
Voilà.
Eh oui, joyeux Noël.
Bonne année.
Vous venez d'écouter Radio Pium, diffusé un dimanche sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Au micro, c'était Maëlle Bouvray, Marianne Varem, Anthony Dominici et Élise Le Pennec. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer et autres. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse opium.radiopium@gmail.com si vous avez des questions à nous poser. Merci de nous avoir écoutés et à dans un mois.
Et maintenant, pour finir ce podcast en beauté, nous allons écouter Kiss It Off Me de Cigarettes After Sex. I could see you walking slow, drinking a slurpee in a peach baseball cap, falling in my lap. You were
so thirsty. Could you love me instead of all the boyfriends you got? No one make you forget about all of those rich fuck boys. Kiss it. Closing your jewelry and you bet.